Vous écoutez, on lit pour vous.
Élise Gravel, Un cerveau qui pétille, un texte de Claudia Larochelle, paru le 10 juin 2025 dans Les Libraires. Élise Gravel n'a jamais été particulièrement douée en maths. Elle a même arrêté de compter le nombre de livres qu'elle a fait paraître depuis son fameux « Catalogue des gaspilleurs », les 400 coups, en 2003, destiné entre autres à ceux qui désirent faire de l'exercice à leur poisson rouge ou épiler leur cactus. Une chose est sûre, celle qui cartonne auprès des jeunes lecteurs ne se sera peut-être jamais autant rapprochée de leurs parents avec son mini Élise, Bienvenue dans ma tête, un nouvel opus. Formidable, comme tous ses précédents, qui cette fois rendra les plus grands nostalgiques d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En somme, un thème fort porteur pour auréoler le portrait intime d'Élise, 12 ans, déconcertée par sa vie avec un TDAH dont elle ignore encore tout, à commencer par le spectaculaire succès littéraire qui l'attend. En 1991, au Québec, Josée Chouinard était la première Québécoise à remporter une médaille d'or au championnat canadien de patinage artistique. Le Bloc québécois devenait officiellement un parti politique. Le salaire minimum passait à 5,55 $. Et, au 13e gala de la disque, Julie Masse remportait le prix de la révélation de l'année, tandis que Vilain Pingouin mettait la main sur le trophée du groupe de l'année. Puis, dans une école secondaire comme tant d'autres, Élise Gravel, une adolescente créative et sage à la fois, souffrait pour sa part d'anxiété, se sentait différente des autres, moins mature et plus bizarre. Heureusement, elle pouvait toujours espérer gagner le concours d'agenda en s'affairant à parfaire le sien si précieux à coups d'illustrations, de collages et d'inscriptions. Quand j'étais petite, on ne savait pas encore grand-chose du TDAH, et même les spécialistes pensaient que ça n'affectait que les garçons. Maintenant que j'ai eu un diagnostic, à l'âge de 35 ans, je comprends mieux mon cerveau spécial, et j'ai appris plein de trucs que j'aurais bien aimé connaître plus tôt, s'exprime avec sincérité Élise Gravel dans l'épilogue de Mini Élise, Bienvenue dans ma tête. Dans les pages qui précèdent cette révélation, l'artiste invite son lectorat, pour un trop bref intermède passionnant et parfois même déstabilisant, à l'intérieur de son journal d'ado. Beau prétexte que ses réminiscences, fictives en grande partie, pour revisiter les grands pans de ce qui rythmait l'univers d'écolière de celle qui collectionnait les roches, même celles qu'elle oubliait dans ses poches de vêtements et qui menaçaient de briser la sécheuse, qui dessinait tout le temps, y compris Milli Vanilli, John Lennon, dont elle était un peu éprise, ou Robert Smith de The Cure, qu'elle trouvait laid, mais dont elle aimait la musique, et qui faisait semblant de triper sur les gars de New Kids on the Block, juste parce que toutes les autres filles les voyaient dans leur soupe. J'ai écrit ce faux journal intime pour représenter comment ça se passait dans ma tête au début du secondaire. Les personnages du livre n'ont pas existé pour vrai, mais mes idées qui jouent constamment au ping-pong, oui, écrit-elle aussi, à la toute fin de cet album touchant de réalisme. Frenchie, c'est dégueu. Avec ou sans amis, car l'amitié et la sororité font aussi belle figure dans ce titre, la jeune Élise écoute de la nouvelle musique chez Sam de Recordman, mange de la pizza chez Plaza Pizza, ramasse des pièces de monnaie dans la fontaine à vœux pour jouer à Street Fighter aux arcades, trouve que Frenchie, ça a l'air dégueu, enregistre des mixtapes de ses chansons préférées sur des cassettes, tente de comprendre comment placer un tampon, n'a jamais le temps de se mettre du spray net dans les cheveux le matin, ou reproduit une partie de sa collection d'effaces dans son agenda scolaire. Allô, la nostalgie des années 1990. Ça fait rigoler Élise, qui a d'ailleurs décoté, il y a quelques années, une collection d'effaces toutes faites chez Renaissance. Elle se souvient aussi de ses collants que les enseignantes apposaient sur les copies d'examen et qu'il faisait bon décoller avant de les regrouper sur des pages glossies d'albums à cet effet. Des tranches de vie préhistoriques, disons plutôt dignes d'une époque où s'ennuyer était plus fréquent qu'en notre ère d'écran à la rescousse. En plus de mettre en relief les passe-temps des jeunes avant l'omniprésence des cellulaires, la sensible artiste procède aussi au merveilleux décryptage du cerveau TDAH d'une jeune fille qui ignore encore de quel bois elle se chauffe. Je trouve qu'il manque de modèles neurodivergents le fun dans la culture pour les jeunes. On montre souvent le TDAH comme un trouble ou quelque chose de mal. Quand j'ai réalisé que j'étais super TDAH, et que j'avais passé ma jeunesse à ne pas comprendre comment les autres faisaient pour être organisés et pour ne pas avoir un cerveau qui part dans toutes les directions tout le temps, c'est comme si on m'avait enlevé tout un poids, confie-t-elle. Ça a changé ma vie. J'ai compris que ça faisait partie de ma créativité, qu'un cerveau qui pétille, ce n'est pas juste négatif. J'avais envie de partager ça avec les jeunes. C'est comme une énorme vague de compassion pour celle que j'étais, qui se trouvait weird, qui se demandait pourquoi ses lettres scolaires se retrouvaient dans le fond de son sac, qui oubliait des examens. J'ai arrêté de me dire des mots pas fins. Ça m'a donné un break, un amour de moi-même. Pour ses fans, il s'agit d'une rare incursion dans l'intimité de celle qui tient à sa discrétion et à sa solitude. Chez elle, dans le quartier Rosemont à Montréal, ou à son chalet dans Lanaudière. Jessie Elliott a peur de son ombre, Scholastique 2014. C'était déjà un peu moi, mais pas complètement. Cette fois, c'est plus affirmé. Je n'étais pas aussi connue à ce moment-là. Les enfants ne me connaissaient pas autant. C'est comme une nouvelle façon de connecter avec eux en m'exposant de la sorte, poursuit-elle. Le coût de l'engagement. Mis à part quelques visites qui la réjouissent dans les classes de nouveaux arrivants, la plus grande de nos stars en littérature jeunesse ne sort que très peu et ne court plus les salons, événements ou rencontres scolaires, comme à ses débuts, il y a une vingtaine d'années. Il faut dire qu'elle a reçu beaucoup de violences, voire des menaces de mort, depuis son engagement envers la Palestine ou après la parution en 2022 de son livre « Le rose, le bleu et toi », un livre sur les stéréotypes de genre, la courte échelle. J'étais de plus en plus inconfortable avec le fait que les gens sachent où j'étais. Et puis, je suis plus fatiguée. J'ai à peine suffisamment d'énergie pour travailler. J'aime être seule dans mon atelier avec mes chiens. Je ressens de plus en plus le besoin de rester dans ma grosse bulle. J'ai envie de paix, de sérénité. J'ai travaillé beaucoup dans les dernières années. Je peux me reposer, précise la mère comblée de deux filles de 17 et 20 ans. Ses propres ados n'en sont plus vraiment. Qu'à cela ne tienne, ça ne l'empêche pas de saisir l'essence de la jeunesse actuelle en commençant par écouter sa propre mini-Élise intérieure, toujours présente. Palpitante, curieuse, forte et prise de justice et d'égalité. Les enfants ne changent pas tellement avec les années, dans le sens qu'ils ont toujours les mêmes besoins qu'on avait. Je pense par contre que c'est dur pour eux de vivre dans la société d'aujourd'hui. Suffit de penser au contexte environnemental et politique, la haine ambiante, Trump. Ils se sentent très seuls souvent. J'aurais envie de tous les prendre dans mes bras. Il va sans dire que ce livre a l'effet réel d'un câlin. C'était Élise Gravel, Un cerveau qui pétille, un texte de Claudia Larochelle, paru le 10 juin 2025 dans les libraires.
Dollars des Ormeaux, le fantôme du Parlement québécois. Un texte de Dave Noël, paru le 30 mai 2025 dans Le Devoir. Le prix de la présidence de l'Assemblée nationale a été remis à l'historien Patrice Groux, mercredi le 28 mai 2025, pour son ouvrage consacré à la mémoire d'Adam Dollars des Ormeaux. Le martyr tombé sous les balles des Iroquois en 1660 était autrefois l'objet d'un culte, au point d'avoir donné son nom à un jour férié. La silhouette du héros déchu brille toutefois par son absence au milieu des statues de la façade du Parlement québécois, un mystère que Le Devoir a tenté de résoudre. Dollars n'était pas encore la figure populaire qu'il allait devenir au moment où le programme commémoratif du Parlement a été fixé, explique l'historien Gaston Deschênes, qui a travaillé pendant près de 30 ans à la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Le choix des bronzes, rappelle le spécialiste, a été déterminé dès 1883 par son architecte Eugène-Étienne Taché, à qui l'on doit également la devise « Je me souviens ». Pour garnir son panthéon des grands hommes, le natif de Montmagny, en aval de Québec, a pigé ses héros dans l'histoire du Canada de François-Xavier Garneau. Or, le barreau d'honneur livré par Dollars contre les Iroquois est plutôt périphérique dans la première édition de ce classique paru entre 1845 et 1852. Il faut attendre le début du 20e siècle, avec l'abbé historien Lionel Groux, pour que le martyr du Lonceau rejoigne le devant de la scène. Dollars aurait normalement dû hériter de l'un des piédestaux laissés vacants par Taché devant le rez-de-chaussée du Parlement. On lui a toutefois préféré l'intendant Talon, le corsaire d'Iberville et un trio d'explorateurs, les Joliette, Marquette et La Vérendrye, qui ont tous été coulés dans le bronze entre 1912 et 1928. Dollars n'était pas dans la même catégorie, observe Gaston Deschênes. Il n'avait pas la prestance de ces personnages qui occupaient des fonctions ou qui ont fait de grandes découvertes. Sauver Montréal. Dollars a longtemps été dépeint en sauveur de Montréal pour s'être porté au devant des Iroquois sur la rivière des Outaouais, au printemps de 1660. La résistance offerte par le jeune Français de 25 ans et sa poignée de compagnons auraient convaincu ses vainqueurs décimés de faire demi-tour vers leur maison longue. C'est le récit créé par les religieux qui ont présenté l'expédition de Dollars comme une opération kamikaze, explique l'historien Patrice Groux. En réalité, ce n'était pas intentionnel de leur part. Le combat livré au Lonceau a néanmoins permis de préserver les assises économiques d'une colonie embryonnaire basée sur le commerce des peaux de castor. Les marchands seraient partis si les approvisionnements en fourrure avaient été coupés, précise l'auteur de « Pour en finir avec Dollars », paru en 2024 aux éditions du Boréal. C'est toutefois les Hurons-Wendat de Québec qui ont sauvé Montréal, lance Groux. L'offensive de ces derniers le long de la rivière des Outaouais visait alors à résister à la campagne d'extermination menée par les Iroquois du lac Ontario. Le combat du Lonceau, c'est une bataille entre autochtones, explique le spécialiste. Ce sont les Hurons-Wendat qui ont lancé l'expédition contre les Iroquois et Dollars s'est joint à eux à Montréal. Le contingent allié d'une soixantaine d'hommes s'est toutefois fait surprendre à quelques jours de canotage seulement de Montréal par une armée écrasante de 700 guerriers iroquois. ils n'ont eu d'autre choix que de se replier à l'abri d'une palissade délabrée servant de relais sur la route des pays d'en haut de l'époque. Le siège de ce fortin a été relaté par la poignée de survivants. Tous les témoignages viennent des Autochtones, rappelle Patrice Groux. C'est ainsi par les Hurons-Wendat que l'on connaît les derniers instants de Dollar et de ses compagnons d'infortune, à commencer par l'épisode fameux du baril de poudre noir que les Montréalistes, assiégés, ont tenté de lancer par-dessus leur palissade pour chasser les Iroquois en désespoir de cause. Le barillet a rebondi dans le fort, relate Patrice Groux. Ça faisait une dizaine de jours qu'ils étaient assiégés sans manger. Ils n'étaient plus très forts. Amorcé sur le tard, au début du 20e siècle, le culte de Dollar aura été aussi intense que bref. Son déclin amorcé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale était bien avancé au moment où le panthéon des héros de la Nouvelle-France a été renversé dans la foulée de la Révolution tranquille. Dans les années d'après-guerre, on commence déjà à rire de cet épisode, constate Patrice Groux. On passe l'histoire à la moulinette. C'était Dollar des Ormeaux, le fantôme du Parlement québécois. Un texte de Dave Noël paru le 30 mai 2025 dans Le Devoir.
Sébastien, l'horticulteur burlesque de Survivor Québec. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 16 juin 2025 dans le magazine Fugue. Divertissant, émotif, rieur, excessif et chaleureux sont quelques-uns des qualificatifs qu'on peut utiliser pour décrire Sébastien, l'horticulteur, comédien et amateur de burlesque que les adeptes de Survivor Québec ont découvert durant la troisième saison le printemps dernier. À quel point étais-tu fan de Survivor? J'ai découvert l'émission à 21 ans, en 2001, en France. Je suis d'origine française. L'émission a bercé ma jeunesse. À l'époque, je trouvais les participants, participantes, extraordinaires. Et je m'étais dit que je ne pourrais jamais faire ça. Ça me semblait trop difficile. Je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. Mon parcours depuis 20 ans m'a amené à pouvoir participer à cette aventure. Quel genre de joueur pensais-tu être avant le début des tournages? Quand ils m'ont appelé, j'ai hurlé de joie. J'étais si content après le long processus d'audition. Ce n'était pas facile. Après la grande nouvelle, j'ai commencé à réfléchir aux joueurs que je serais. Je voulais être full stratégique et essayer de faire des coups. Puis, un jour, j'ai décidé de rester moi-même, sans mentir. Même si je pensais leur dire seulement que j'étais horticulteur, sans leur parler de ma vie de comédien, j'ai compris que je n'arriverais pas à garder ça secret. Ça me semblait important d'être un joueur rassembleur, surtout pour la première partie du jeu qui se joue en équipe. As-tu vu émerger des aspects de ta personne que tu n'avais pas prévus? J'ai découvert que j'aimais la stratégie, finalement. Je pensais que ce serait difficile de manigancer et d'essayer d'influencer les votes du groupe au conseil de tribu, mais je me suis amusé. J'ai réalisé que j'avais un petit potentiel de vilain. J'aimerais tellement participer à la prochaine saison des traîtres, comme Audrey de la deuxième saison de Survivor Québec. J'essaierai de surprendre tout le monde. Crois-tu que ton intensité et ton côté émotif t'ont servi ou desservi à Survivor? Les deux. Les gens étaient contents que je sois là. Et elles me disaient souvent que je leur faisais du bien, que je les faisais rire et que je leur permettais de s'évader. Je gagnais leur confiance grâce à mon intensité. Par contre, elle m'a aussi desservi à plusieurs moments, notamment lors de mon élimination. En raison de mon émotivité, j'ai parfois du mal à garder les choses pour moi. Ça a précipité ma sortie du jeu. Ta personnalité chaleureuse et colorée a aussi séduit bien des gens. Quels liens sont restés depuis? On n'a pas eu le droit de se voir avant la finale, mais on s'est écrit. On a tissé des liens tellement forts entre nous. Ça aurait été inhumain de ne pas pouvoir échanger, même si on a essayé très fort de garder la surprise. Ceux et celles qui sont restés plus longtemps ont vraiment bien fait ça. Par contre, je les aime profondément, ces gens-là. Au-delà du jeu, j'ai rencontré des humains avec de belles valeurs. J'ai gardé des liens très forts avec mon alliance de cœur, André, Daniel et Catherine, sans oublier ma meilleure ennemie dans le jeu, Geneviève. Tu as offert une démonstration de burlesque à l'émission. Quelle place la occupe-t-il dans ta vie? Je suis performeur burlesque depuis un peu plus de 10 ans. Je donne environ un show par mois. À mes yeux, le burlesque, c'est la possibilité d'aller sur scène en toute simplicité. Toutes les couleurs, les genres, les origines sont les bienvenues sur la scène. C'est une communauté bienveillante qui permet d'être soi-même. Les gens pourront me voir le 6 juillet prochain au Cabaret des Curiosités et avec mon chum, Bobby Anana, qui est drag queen, le 20 septembre au IBC Impérial Burlesque, une compétition de burlesque. À quel endroit as-tu étudié le théâtre? Pratiques-tu toujours ce métier en parallèle? J'ai étudié à Bordeaux et à Grenoble. Ensuite, j'ai performé durant 10 années comme comédien et danseur. Aujourd'hui, je fais des spectacles de marionnettes. Je suis performeur de rue et animateur, mais je ne fais plus du théâtre de texte depuis quelques années. À Survivor, je me suis rendu compte que je m'ennuyais de ça. Je récitais des alexandrins pour garder ma force mentale. Pourquoi as-tu déménagé au Québec? Une comédienne qui avait vécu un an au Québec m'avait mentionné que ça m'irait bien, que Montréal était une ville culturelle que j'adorerais. Donc, j'y suis parti quelques mois en vacances. Je suis retourné faire des contrats en France et le Québec m'a terriblement manqué. Comme j'avais un an de PVT, permis vacances-travail, je suis revenu finir la durée et je n'arrivais plus à m'en aller. Je suis tombé en amour avec les gens et le paysage. Comme si j'avais enfin trouvé l'endroit où je me sentais bien. J'y suis depuis 15 ans. C'était Sébastien, l'horticulteur burlesque de Survivor Québec. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 16 juin 2025 dans le magazine Fugue.
Un yo-yo qui brise des vies, un texte de Luc Desjardins de l'Itinéraire, paru le 21 juin 2025 dans la presse. Imaginez devoir quitter votre logement chaque matin sans savoir si vous pourrez y retourner. Travailler sans certitude que votre bureau sera accessible demain. Vivre chaque jour dans l'angoisse de ne pas savoir où vous pourrez simplement exister. C'est pourtant le quotidien de milliers de personnes en situation d'itinérance au Québec. Et ce n'est pas un phénomène propre à Montréal. Partout dans la province, les personnes sans-abri sont prises dans un manège institutionnel où elles sont tolérées un jour dans un lieu, station de métro, bibliothèque, parc, centre communautaire, puis priées de le quitter le lendemain. Puis on les réadmet, parfois sous l'étiquette d'un projet pilote, souvent à la faveur d'un grand froid ou d'une vague de chaleur. Puis, encore une fois, on les déplace et on recommence. Ce yo-yo institutionnel est partout. Il est dans les décisions de la Société de transport de Montréal qui ouvre certaines stations de métro l'hiver pour les refermer dès que le printemps revient, ou l'inverse, je ne sais plus, ou pire, pour faire place au clinquant de la Formule 1. Le service y est alors complet, mais pas pour les itinérants, pour les touristes, pour l'image. Même les bibliothèques, refuges de calme et de savoir, deviennent des zones d'exclusion discrète. Trop de sacs? tu déranges. Tu sens fort, tu déranges. Tu t'assois trop longtemps, tu déranges. On ne bannit pas l'itinérance, on la décourage à coups de règles déguisées. Même refrain ailleurs. Centre communautaire, hôpitaux, écoles, entreprises sociales. On accueille jusqu'à ce que ça dérange. Puis on referme pour des raisons de sécurité ou de bonne gestion. Que prétend-on gérer, au juste, quand on déplace l'itinérance au lieu de l'accompagner? Que dit-on à ces hommes et ces femmes qu'on chasse du métro, qu'on refuse sur le trottoir, et pour qui le refuge est plein ou carrément fermé? Qu'ils dérangent? Qu'ils doivent circuler, disparaître, rester invisibles? Cette instabilité permanente détruit les repères, mine la santé mentale, effrite l'estime de soi. Et pendant ce temps, les institutions publiques, censées être les gardiennes du bien commun, s'en lavent les mains. On traite les personnes en situation d'itinérance comme des anomalies à contenir, non comme des citoyens à soutenir. Et ce n'est pas sans conséquence. Ce climat d'intolérance s'infiltre partout, dans les regards, les discussions de trottoir, les plaintes de voisinage. Et parfois, il se transforme en violence. Il y a quelques semaines, à Brossard, une femme itinérante a été délibérément fauchée par un VUS. Ce geste abominable ne tombe pas du ciel. Il pousse dans un imaginaire collectif qui, peu à peu, déclare certaines vies indésirables. Et pendant qu'on coupe les vivres à des programmes qui fonctionnent, comme notre café-maison ronde, un modèle d'insertion autochtone unique au pays, qu'est-ce qu'on dit aux personnes concernées? Qu'elles dérangent? Qu'elles ne valent pas l'effort? Ce désengagement n'est pas neutre. Il nourrit le mépris, il valide le rejet. Ce n'est pas d'un coup de cœur temporaire qu'on a besoin. C'est d'un vrai changement de cap, d'un courage politique, d'un engagement ferme pour bâtir une société où personne n'est laissé dehors, ni physiquement, ni symboliquement. Faudrait bien arrêter de niaiser avec le yo-yo. Chaque fois qu'on tire dessus, c'est un bout de notre humanité qui pète. C'était un yo-yo qui brise des vies. Un texte de Luc Desjardins de l'Itinéraire, paru le 21 juin 2021.